après les petits bateaux de Camille Cronier.
Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment sont faits les tunnels, comment est fait le tunnel sous la Manche. Merci.
France Inter. Abonnez-vous aux newsletters.
Chaque jour, l'essentiel d'Inter dans votre boîte mail. Chaque semaine, le meilleur de l'humour et nos conseils culture.
Pour recevoir nos newsletters, inscrivez-vous sur franceinter.fr.
20h et 30 secondes. Les dernières informations. Bonsoir Alexandra Dubouchereau.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Il ne pouvait pas ignorer l'âge de la victime. C'est ce qu'a estimé le tribunal correctionnel de Valenciennes aujourd'hui en condamnant 10 hommes à des peines de 4 à 10 mois de prison ferme pour avoir eu des rapports sexuels avec une adolescente de 14 ans. Deux autres hommes sont condamnés à du sursis pour détention d'images pédopornographiques de la victime. Le tribunal a aussi prononcé des obligations de soins. Ces accusés, âgés de 25 à 60 ans, avaient rencontré la jeune fille sur Snapchat ou encore le site Coco. L'avocate de la victime, maître Grégory Frère, est globalement satisfait.
Ce qui est satisfaisant, c'est le fait que l'ensemble des prévenus a été reconnu coupable des faits. Alors, il y a des relaxes partiels sur des périodes de prévention aux encornures, donc certains prévenus sont relaxés sur certains points, mais en réalité, ils sont tous condamnés, tous reconnus coupables des faits qu'ils ont commis à l'encontre de la demoiselle, donc c'est déjà une très bonne chose en soi. Après, même en tant qu'avocat des parties civiles, on n'est jamais satisfait d'un délibéré parce que ça ne rattrape jamais le préjudice qui a été réellement subi par la demoiselle. Donc voilà, c'est une condamnation, c'est important pour la justice, c'est important pour la société. Maintenant, ce n'est que le point de départ d'un long chemin pour cette famille et la victime. Maintenant, ce que j'espère aussi, c'est que ces condamnations vont en dissuader d'autres d'avoir recours à de la prostitution de mineurs ou en tout cas d'avoir des discussions ou des échanges comme ça avec des jeunes filles mineures sur Internet et autres.
Maître Grégory Frère au téléphone d'Hélène Fromantie de France Bleu Nord pour France Inter. Et puis en vue des Jeux Olympiques de cet été à Paris, la plateforme Airbnb annonce aujourd'hui avoir signé une convention avec la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Une convention pour lutter contre l'exploitation sexuelle et dans les hébergements qu'elle propose à l'occasion des JO. Gabriel Attal a inauguré le prolongement du RER E cet après-midi dans la nouvelle gare monumentale de la Défense près de Paris, accompagné de deux ministres, de la présidente de la région et du patron de la SNCF. Le Premier ministre a salué un pas de géant pour des millions de Français et le symbole, dit-il, de l'écologie de solution. La ligne baptisée Éole pour ou Est-Ouest Liaison Express reliera à partir de lundi Saint-Lazare à Nanterre-la-Folie. Objectif 650 000 voyageurs par jour. Les travaux ont commencé en 2017. Cela faisait 20 ans qu'un RER n'avait pas connu d'extension à Paris. Après l'OTAN hier, l'Union européenne à la mi-journée, c'est au tour de la diplomatie américaine d'accuser Moscou d'être derrière les récentes cyberattaques contre l'Allemagne et la République tchèque. Notamment, les États-Unis condamnent fermement les cyberactivités malveillantes menées par les services de renseignement militaire russes, indique ce soir un communiqué du porte-parole du département d'État américain. Des accusations balayées par l'ambassade russe à Berlin. La Russie qui se classe en 162e position dans le classement mondial de la liberté de la presse, qui est publié aujourd'hui par Reporters sans frontières. La France remonte à la 21e place. La Norvège, le Danemark et la Suède sont en tête. Et tout en bas, on trouve dans l'ordre l'Afghanistan, la Syrie et l'Érythrée. Globalement, l'ONG estime que les autorités politiques menacent la liberté de la presse au lieu d'en être les garantes. En Tunisie, le décret 54 est devenu une menace pour la liberté d'expression selon les journalistes et les ONG. Ce décret présidentiel prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de fausses informations, même 10 ans si la personne visée est un agent public. Depuis sa promulgation il y a un an et demi, plus de 60 personnalités publiques opposants et journalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Et puis du côté du cinéma, ce nouveau binôme paritaire à la tête des Césars, le producteur Patrick Sobel Mann vient d'être élu président de l'Académie des Césars pour 2 ans. Il en était le vice-président depuis 2022. Il succédera à Véronique Kella le 16 juillet prochain. La distributrice Ariane Toscan-Duplantier est élue vice-présidente. 20h04.
France Inter, midi, Thomas Negaroff.
Ce samedi, on inaugure notre mois européen avec de grands intellectuels sur l'idée d'Europe. Premier invité, Heinz Wissmann.
Le grand face-à-face, tous les samedis à midi sur Inter.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Merci d'écouter France Inter. Très bonne soirée. À suivre leur philo, mais tout de suite le temps de se brosser les dents. Voici les petits bateaux Camille Crenier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux. Oh, il y a un tunnel là, je crois que ça va couper.
Bonjour, je m'appelle Esther, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir comment sont faits les tunnels, comment est fait le tunnel sous la Manche. Merci.
Ah ben non, on est passé, tiens, on est toujours là. Comment est fait, tu l'as très bien dit Esther, le tunnel sous la Manche, comment est-ce qu'on l'a construit? Michel Virlogeux, Monsieur Pont, on vous doit entre autres le viaduc de Millau ou le pont de Normandie en France. Mais je suis sûre qu'en bon ingénieur, vous connaissez aussi les tunnels et pouvez donc répondre à notre chère Esther.
Alors, le tunnel sous la Manche, d'abord pour la petite histoire, il faut savoir que Napoléon voulait envoyer en Angleterre et qu'il avait commencé à creuser un tunnel. En fait, il a vite compris que ce n'était pas à l'échelle des moyens de l'époque. Et donc, le projet est revenu il y a pas mal longtemps. C'était du temps où le président de la République était François Mitterrand et où le Premier ministre anglais était Madame Thatcher. Et il y a eu une espèce de grande compétition d'idées pour franchir la Manche. Et il y a eu plusieurs solutions. Il y avait des gens qui voulaient faire un pont sur la Manche. Mais finalement, la solution qui a gagné, c'est celle d'un tunnel. Alors, c'est un tunnel qui est un tunnel foré. C'est-à-dire que les gens qui ont conçu cet ouvrage ont d'abord commencé par choisir la couche de sol dans laquelle creuser le tunnel. Donc, ils sont allés chercher une couche de calcaire, si mes souvenirs sont bons, hein, qui soit relativement étanche, de façon à ce que la construction ne soit pas trop compliquée, qu'il y ait peu d'arrivée d'eau, hein, pour qu'on puisse construire dans des conditions relativement sécuritaires. Ensuite, pour des raisons de sécurité d'exploitation, il a été décidé que le tunnel serait constitué de deux tubes indépendants, un pour chaque sens de circulation, reliés de loin en loin par des petits tubes transversaux de façon à assurer la sécurité en cas d'incendie, ce qu'ils ont bien fait puisqu'il y a eu des incendies dans le tunnel sous la Manche, pour que les gens puissent s'évacuer. Voilà. Alors comment ça se fait ? Eh bien, comme il faut descendre sous la mer assez profond, et puis même dans la couche de calcaire dont je parlais tout à l'heure, et évidemment, comme il faut descendre loin, il faut partir très loin pour avoir le temps de descendre progressivement parce que les trains n'aiment pas beaucoup les pentes. Et alors, comment on construit ? Eh bien, on construit avec une foreuse, ce sont des engins extrêmement spéciaux, qui sont de véritables trains. En tête, vous avez ce qu'on appelle un bouclier, qui permet éventuellement d'aller travailler sur le front quand il y a des difficultés, parce qu'on est bloqué pour une raison ou pour une autre. Et puis derrière, vous découpez le sol, vous l'évacuez. Alors pour l'évacuer, il faut évidemment avoir des wagons derrière dans lesquels on va mettre tous les produits d'extraction. Et puis dans les wagons, vous avez aussi tout le stock des voussoirs préfabriqués qui vont vous permettre de fabriquer votre tunnel.
Oula, alors petit stop technique, Michel Virlougeux. Les voussoirs, c'est-à-dire les structures qui vont faire la voûte, l'arrondi du tunnel, quoi, composent à la queue-leu-leu, tranche par tranche. On reprend.
Mais c'est des tranches très petites, hein, ça fait moins d'un mètre. On va mettre toute une série de voussoirs qui s'emboîtent exactement les uns dans les autres. On va les mettre, on va venir avec des verres, on va venir presser comme ça pour que ça soit bien lié avec les précédents. Et on va injecter entre le terrain et cette nouvelle couronne de voussoirs pour créer un tunnel étanche. Et puis on recommence, et on recommence, et on recommence. Et donc le tunnel sous la Manche a été construit avec cette technique, en partant des deux côtés. Je pense qu'il y avait quatre tunneliers, hein, quatre trains de forage pour venir fabriquer le tunnel sous la Manche.
D'une longueur totale de 50,5 km, mais 38 km sous l'eau. Et le train, lui, reste 35 minutes en dessous. Voilà, vous savez tout. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et bon week-end et à dimanche, même lieu, même heure, de la part de tout l'équipage des petits bateaux. Stéphanie Texier à la réalisation, Marjorie Devoucou et Anna Marsardier pour la programmation. Et puis cette semaine avec nous, c'était Florian Dorimini. Et tout de suite, on retrouve Patricia Martin. C'est l'heure philo.
Merci Camille Cronier et à dimanche. Philo. L'heure philo jusqu'à 21h. Lilian Alloum à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Benjamin Wagon à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Vous savez, on parle beaucoup d'amour, faire l'amour. Je suis amoureux, être amoureux et aimer, c'est pas pareil. L'amour, c'est le désintéressement, même envers un autre être humain. C'est généreux, c'est pas possessif. C'est ne plus être jaloux, par exemple, en amour. Ben, il faut du temps pour y arriver à ça. D'où le privilège de l'âge.
Vous avez été jalouse ?
Ben, bien sûr que j'ai été jalouse. Bien sûr que j'ai été jalouse, pensez donc.
Vous aurez reconnu cette voix, celle de Jeanne Moreau, c'était en 1976, et vous vous dites déjà, ce soir on va donc nous parler d'amour dans l'heure philo. Eh bien non, enfin si, parce que comment réfléchir à ce que c'est que le désamour sans considérer ce qu'est l'amour. Fabienne Brugère est ce soir notre invitée, elle est présidente de l'université Paris Lumière, Paris 8, Paris 10, CNRS, et elle publie un livre intitulé « Désaimer, manuel d'un retour à la vie ». C'est publié chez Flammarion. Bonsoir Fabienne Brugère.
Bonsoir Patricia Martin.
Alors, manuel d'un retour à la vie, je reprends la balle au bon. S'il s'agit donc de ça, est-ce que ça signifie que désaimer, c'est d'abord, avant un retour à la vie, c'est d'abord mourir un peu ?
Désaimer, c'est mourir un peu parce que c'est le sentiment d'une perte. C'est-à-dire que quand on aime, on est dans une forme de plénitude, de rapport à l'être aimé. Le désamour, c'est le moment de la privation de cet objet aimé ou de cette personne aimée. Et forcément, dans la perte, dans la privation, eh bien, il y a quelque chose qui s'approche de la mort, de la faim, de l'abîme, du gouffre.
Mais c'est aussi une énigme, d'une certaine façon, le désamour. Vous allez me dire que l'amour en est une aussi.
C'est une énigme parce que pourquoi, dans une relation, quelqu'un part ? On a une expression d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, sur la disparition, c'est le ghosting. Mmh. C'est vraiment se séparer, partir et ne plus laisser de traces. Je crois que d'ailleurs, ça a toujours existé. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la rupture, de l'irréparable, de la fin de quelque chose.
On dote en général l'amour de toutes les vertus et pas le désamour. Et en fait, peut-être qu'on a tort. Peut-être qu'à un moment donné, il vaut mieux effectivement que le désamour soit là, plutôt qu'un amour qui boite.
Bah, c'est-à-dire que le désamour, on veut pas le raconter, forcément, parce qu'on pense que c'est une expérience plutôt négative. On veut pas, au départ, on veut pas mettre des mots dessus. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement mettre des mots, le raconter, dire que ce sont aussi des histoires et que quand on le raconte, eh bien forcément, on prend conscience que c'est quelque chose d'épais, que c'est un chemin, que c'est un processus et que le désamour, bah, ça a une texture.
Vous dites que c'est un chemin, c'est peut-être un passage.
De toute façon, le chemin, c'est une manière de déambuler. C'est une manière de déambuler. Le chemin, c'est par exemple la manière de traverser une forêt. Donc le chemin, d'une certaine manière, c'est un passage. Et c'est vrai que cette notion de passage, elle est intéressante parce qu'elle permet de mettre en avant l'idée d'une transformation. D'une transformation de soi, d'une transformation du rapport aux autres. Et donc, le passage, il dit le fait que le désamour, on ne pose pas la question « qu'est-ce que c'est ?». Ce n'est pas cette question philosophique « qu'est-ce que c'est ?». C'est plutôt « qu'est-ce qui nous arrive ?». Qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive ? Donc forcément, c'est une dynamique. Et dans cette dynamique, on peut tout à fait imaginer qu'il s'agit bien d'un passage de quelque chose à autre chose.
Alain Badiou, qui s'est intéressé de près à l'amour, il a même publié un éloge de l'amour dans lequel il dit d'ailleurs que l'amour est cette confiance faite au hasard. Alain Badiou, c'était sur France Inter en 2017.
l'amour, d'un point de vue en quelque sorte immédiatement presque métaphysique, c'est tout de même l'expérience la plus radicale qui existe de l'autre. Voilà. Ça, je crois que c'est pas niable. Ça n'est pas niable. Et cette expérience est radicale parce que, d'une certaine manière, dans l'amour, il y a la nécessité et, en un certain sens, le vœu d'accepter que l'intégralité de quelqu'un d'autre soit une figure de votre propre vie. Et de ce point de vue-là, la dialectique amoureuse, c'est une dialectique de l'autre en un sens particulièrement intense. Et si on considère qu'après tout, l'expérience et la dialectique de l'autre est un point essentiel non seulement de la vie, de l'existence, mais aussi, en fin de compte, de la pensée, des positions qu'on peut prendre sur le monde, et à la fin des fins, des prises de parti politique, etc., il est certain que l'amour est une sorte d'expérience radicale de cela. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de dire que, à mon sens, l'amour, c'était le communisme minimal. Le communisme à deux, voilà. Et j'entendais par là, c'est une image, mais j'entendais par là qu'il est l'expérimentation de ce que c'est que l'humanité tout entière, mais dans la figure de l'acceptation d'un autre.
Alain Badiou, donc, qui nous dit que l'amour, c'est un communisme minimal. Est-ce que le désamour, à ce moment-là, Fabienne Brugère, est-ce que c'est l'échec du communisme, l'échec d'une utopie ?
Ben oui, c'est-à-dire que le désamour, c'est le moment du désenchantement, où c'est le moment où on n'idéalise plus l'amour. C'est-à-dire que Badiou, là, tout y va. Radicalité de l'expérience amoureuse, partage complet, communisme, dialectique intense. On a vraiment ce que font souvent les philosophes, c'est-à-dire une idéalisation de l'amour. Et d'une certaine manière, c'est quand même aussi une forme d'illusion. Et donc, le moment du désamour, c'est vraiment le moment de la fin du partage. C'est bien le moment où l'amour n'est plus communiste, où tout d'un coup on se rend compte que tout ce qu'on avait cru mettre en commun et tous ces attachements, ils volent en éclats. Et donc c'est un moment en même temps de retour de la réalité d'une certaine manière. C'est un moment de désenchantement, c'est un moment où on est obligé de se confronter à soi, mais à un soi tout d'un coup vidé de toutes ces illusions, de tous ces idéaux, de tout ce que l'on avait intensifié à deux. C'est ce moment où tout d'un coup on se rencontre, 1 plus 1, ça ne fait pas 1. Et finalement c'est logique, c'est quand même logique que 1 plus 1, ça fasse 2.
Tout le monde fait l'expérience du désamour, c'est quelque chose d'universel ?
Je crois qu'il y a deux choses, c'est que d'une part quand on aime, on a toujours peur de la fin de l'amour. Et donc là, on peut déjà penser cette notion de désamour. Et puis ensuite, on a tous et toutes affaire à des ruptures, à des séparations, ou tout simplement un déficit de l'amour, à de l'indifférence. Et puis j'ajouterais que nos sociétés sont quand même des sociétés où de plus en plus, les couples se composent, se décomposent, se recomposent. Donc nécessairement, on est amené à faire l'expérience du désamour et de plus en plus à la nommer et à l'analyser.
Mais le couple, est-ce que ça a au fond quelque chose de véritablement de lié à l'amour ? Est-ce que ça a à voir avec l'amour ? Pour reprendre un peu ce que dit Alain Badiou, lui il dit l'amour, mais là vous dites le couple. Le couple c'est un système.
Bien sûr, c'est-à-dire que Badiou, ce qu'il analyse, c'est l'expérience amoureuse. Et l'expérience amoureuse, il la pense de deux manières, d'une part comme un événement, l'événement de la rencontre, et puis ensuite, le fait, et c'est la différence avec être simplement amoureux, quand on aime, l'événement, il aboutit à une construction, et donc à une durée. Et c'est cela qu'analyse Badiou. Le couple, effectivement, c'est l'un des agencements possibles de l'expérience amoureuse, c'est l'agencement, cela dit, majoritaire, c'est l'agencement aussi le plus reconnu, mais le couple, ça peut devenir aussi une sacrée machine à des amours, parce que le couple dans la durée, comme vous le dites, c'est en fait d'une certaine manière une unité obligatoire qui aboutit parfois à une famille, avec des enfants, et c'est presque quelque chose, on pourrait dire, qui peut devenir un véritable goulag domestique. Donc
il faut bien... le goulag
domestique. Le goulag domestique. Et donc forcément, dans le couple, il peut y avoir du désamour.
Extrait du film Le Mépris de Jean-Luc Godard, adapté du roman de Moravia. C'est Camille, donc, qui est jouée par Brigitte Bardot, qui éprouve du mépris pour Paul, interprété lui par Michel Piccoli. Paul essaye de comprendre pourquoi il y a ce mépris, mais Camille se refuse à le lui dire.
Je t'ai vu tout à l'heure quand il t'a embrassé.
Je sais.
Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus?
C'est la vie.
Pourquoi est-ce que tu me méprises?
Ça, je te le dirai jamais, même si je devais mourir.
Dis-le-moi ou je te fais mal.
Pourquoi est-ce que tu veux me faire mal en plus?
Parce que je veux savoir pourquoi tu me méprises. C'est insensé tout de même. Je sais pas pourquoi tu veux que j'accepte quand même.
Parce qu'on a besoin de cet argent pour payer l'appartement. Je tiens pas à recommencer à t'activer.
Je vais pas accepter après ce qui s'est passé. Évidemment, alors tu me méprises.
Je savais que j'avais embrassé ce qui plaît, t'étais prêt à changer d'avis quand même.
Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi, pour que tu changes d'avis sur moi.
Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau.
Même si je refuse, tu continueras de me mépriser?
Oui, je continuerai.
Pourquoi? Ben, dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison.
La raison, c'est toi.
Comment moi?
Je sais pas, moi. Tu es pas un homme. De toute façon, c'est trop tard.
Waouh! Alors, vous écrivez, Fabienne Bruget, au sujet de ce film, du mépris, vous écrivez que là, il y a une dispute qui surgit sans emphase, presque froidement, alors qu'en plus, il fait beau, ouais. C'est l'été, enfin, rien ne s'y prête. Hein. Ça commence à bas bruit, puis ça finit avec des mots tranchants, comme on vient de l'entendre.
Oui. Hein. Bah c'est du Godard, hein. C'est-à-dire que la dispute, elle se fait sans emphase, donc ça c'est quand même assez extraordinaire, donc dans un cadre complètement majestueux en plus, bon avec Brigitte Bardot, et puis tout y est en même temps, le mélange entre la vie et la mort, si je veux garder ma vie, bah, il faut que je te quitte quelque part.
Oui, mais c'est une mise à mort de l'autre.
C'est une mise à mort de l'autre, mais je dirais que c'est surtout aussi une affirmation de soi, de la part de Brigitte Bardot, bah, qui dit « je ne t'aime plus ». Et elle a le droit, de ne plus aimer en fait, Michel Piccoli.
Elle a le droit de lui dire « t'es pas un homme, t'es plus un homme ».
Elle a le droit. C'est le propre de la dispute, c'est que précisément elle installe du mépris. Et qu'elle manifeste un mépris de l'autre. Donc effectivement, ce que montre bien Godard dans ce film, c'est bien d'ailleurs le titre du film, c'est le mépris qui s'installe. Et quand le mépris s'installe, bah effectivement, c'est qu'il n'y a plus d'amour, parce qu'il n'y a plus, de considération de l'autre, et puis il n'y a plus...
Et la sensibilité s'absente aussi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout un attachement, ce sont des émotions qui sont en train de se déliter. Et ce moment du mépris, c'est comme un précis de décomposition amoureuse. C'est vraiment Godard, il est très fort à ce moment-là. Il analyse comment une relation amoureuse est en train de se décomposer et comment précisément il n'y a plus rien et en même temps avec une certaine franchise. Je ne t'aime plus.
Are you lonesome tonight? Do you miss me? Tonight, are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day
when I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome?
Oh, Lord.
I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
C'était Elvis Presley. Fabienne Brugère est ce soir l'invitée de L'Heure Philo pour un livre intitulé « Des aimés ». Manuel, un retour à la vie. Alors, pendant que vous étiez précisément en train de travailler sur ce livre, vous dites que la lecture des fragments d'un discours amoureux de Barthes vous a, en quelque sorte, inspiré.
Oui, parce que Barthes... Dans ce livre, écrit sur l'amour, mais il dit « je ne vais pas écrire sur l'amour, je ne vais pas donner une définition de l'amour, je vais développer des figures de l'amour. » Donc je vais présenter l'amour par fragments, par histoire. Et je me suis dit que c'était extrêmement intéressant que j'allais le déplacer à la question du désamour. Parce que le désamour, de la même manière, ça n'existe que dans des narrations, dans des histoires, et à partir de là, on conduit des analyses. La chose que j'ai faite, c'est que le terme de figure, j'ai remplacé par celui de scène. Scène, c'est un terme qui vient de Jacques Rancière, et de l'idée précisément qu'on déploie, on pourrait dire, des morceaux d'histoire, avec des attachements entre les figures, mais des petits morceaux d'histoire. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est présenter des petits morceaux d'histoire, parce que le désamour, c'est forcément des choses à chaque fois précises. C'est par exemple un jeune couple qui est amoureux, et il y en a un qui part brusquement, et l'autre a un chagrin qui peut le mener jusqu'à penser même au suicide, qui peut le mener à ne plus manger. C'est des histoires aussi parfois de désamour d'un pays qu'on doit quitter parce qu'il devient un pays, une dictature, et qu'on doit partir avec sa langue, qu'on est en exil. Des personnes comme Tucholsky, par exemple, au moment de l'Allemagne qui devient nazie. C'est des histoires d'infidélité, de mensonges qui aboutissent à des séparations ou à des divorces. C'est des histoires amoureuses qui peuvent être cachées et qui tout d'un coup se terminent, se décomposent. Enfin bref, c'est plein de scènes aussi, c'est plein de scènes au cinéma, c'est plein de scènes dans la littérature. Donc voilà, c'est Barthes m'a vraiment inspiré parce qu'il donne la possibilité de ne pas rassembler immédiatement et de partir, départir des expériences. Et moi, de toute façon, j'ai toujours travaillé en philosophie à partir de l'expérience. Et donc là, il fallait bien trouver vraiment ce qu'était cette expérience du désamour, ou plutôt ce que sont ces expériences du désamour.
Fragment d'un discours amoureux, justement, donc à ce sujet-là, Roland Barthes s'exprime. C'est une archivina du 29 avril 1977.
Je dirais que malgré tout, il y a une solitude de l'amour-passion pour deux raisons. La première, c'est que je distinguerai, c'est peut-être un thème qui reviendra entre nous d'ailleurs, je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné, que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société, en quelque sorte, qui se délègue à ses romanciers, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir, ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même souvent, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit. Ça, c'est une première raison, enfin, de la solitude du sentiment amoureux, du discours amoureux. Je distingue bien entre discours et histoire. Et la seconde raison de cette solitude que je postule, que je suppose, que je constate, c'est que dans l'époque actuelle, disons, cette espèce d'amour-passion, d'amour romantique, il faut bien le dire, disons en gros, il n'est plus à la mode. Il a probablement une grande audience populaire, mais il n'est plus à la mode, c'est-à-dire qu'il n'est pas pris en charge par les grands langages théoriques ou réflexifs ou idéologiques que la modernité a produit. Pas pour citer des systèmes langagiers très connus, je dirais que ni le marxisme, ni même la psychanalyse, si vous voulez, ne prennent en charge ce sentiment amoureux.
Alors distinguer le discours amoureux dans sa tête et l'histoire d'amour, c'est une des choses que dit Barthes. On va les prendre dans l'ordre, même si c'est difficile de mettre de l'ordre dans l'amour tout comme dans le désamour. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il y a aussi ce qu'on se raconte dans sa tête.
Bien sûr, ce que dit Barthes dans son livre, qui est très fort, c'est qu'il dit, moi je vais prendre justement le point de vue du discours, c'est-à-dire de ce qui se passe dans la tête et qui fait que précisément le je qui aime ou le nous qui aimons, c'est autre chose que la question de l'objet aimé. Et donc l'objet aimé, c'est pas mon propos. Parce que justement, je peux rien en dire. Mon propos, c'est moi, c'est nous qui aimons. Et c'est ça le discours amoureux. Et j'ai voulu faire la même chose sur le désamour. C'est-à-dire que ma question, ça a été cette expérience, avec tous les éléments d'ailleurs tragiques qu'elle peut porter au départ, même si elle est un passage vers autre chose. C'est l'expérience telle que j'ai pu la vivre, telle que nous pouvons la vivre. Donc c'est le nous de ce qui nous arrive, c'est le discours, c'est mon discours, et qui peut devenir notre discours, parce qu'il y a une forme d'universalité de l'expérience. Mais c'est pas la question de l'objet qu'on désaime. C'est vraiment ce qui m'arrive, ce qui nous arrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dans ce que dit Barthes, c'est toute la question de ce qu'on fait de l'histoire amoureuse, et où là on est dans une entreprise d'objectivation, parfois d'idéalisation, ou en tout cas on met tout de suite en relation. Et donc je pense que
pardonnez-moi, mais quand on c'est une forme d'illusion aussi d'idéaliser quelque chose. Ça veut dire qu'au fond on invente une histoire qui est une fiction par rapport à la réalité.
Mais bien sûr, l'histoire d'amour, ça dit tout de suite la fiction, ça dit tout de suite l'illusion, et ça dit tout de suite aussi la possibilité de la chimère. Et je crois que forcément, dans le fait de désaimer, il faut vraiment insister sur le dé. Et le dé, il dit à la fois tout ce qu'il peut y avoir de déception par rapport à l'idéalisation. Il dit aussi tout ce qu'il peut y avoir tout d'un coup de distance. Et il dit aussi tout ce qu'il peut y avoir de détachement. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure, c'est un passage, et je crois que c'est très juste, c'est un passage de l'attachement au détachement. Et comment cela se fait, c'est ça aussi l'objet du livre.
Est-ce que vous êtes d'accord aussi, Fabienne Brugère, avec Barthes, quand il dit que d'abord, à l'heure actuelle, l'amour romantique n'est plus à la mode, et qu'il dit également que ni le marxisme, ni la psychanalyse ne prennent en charge le sentiment amoureux?
C'est-à-dire que je pense que l'amour romantique, c'est compliqué. Parce que certes, on s'en est écarté. Certes, de toute façon, on pourrait dire très rapidement que la réalité du capitalisme, c'est quand même aussi une réalité des couples jetables. On pourrait le dire comme ça très rapidement. Mais je crois qu'en même temps, quand on est jeune, très souvent, on continue à avoir quand même l'idée de la grande rencontre, de ce qu'évoque d'ailleurs Badiou, cet événement de la rencontre amoureuse. Et ça, c'est quand même une machine à idéalisation. Mais par ailleurs, ce qu'il faut ajouter, c'est que le chemin amoureux, c'est quand même aussi un chemin dans lequel on rencontre effectivement des choses comme le marxisme. Le marxisme, c'est ce qui nous dit, il y a des classes sociales, il y a une réalité sociale. Et donc l'amour, c'est aussi des rencontres, on pourrait dire, très préparées par la société. Et puis de l'autre...
Il y a un côté culturel aussi.
Voilà, il y a tout ce côté culturel. Et puis de l'autre, il y a la psychanalyse qui nous dit, finalement, elle démystifie d'une autre manière. On rencontre quelqu'un parce qu'en fait, il y a ça dans notre propre histoire qui fait qu'on va rencontrer cette personne et ça peut créer des formes d'aliénation. Voilà, donc ce sont deux, on pourrait dire deux usines quelque part qui déconstruisent l'amour romantique. Mais je pense que c'est important qu'il y ait eu de grandes déconstructions de l'amour romantique, parce que l'amour romantique, en plus, il est souvent habité par des positions féminines et des positions masculines.
Alors, à propos de la psychanalyse, Jacques Lacan, l'inénarrable Jacques Lacan, c'est une archivina du 9 mars 1974. Tendez un peu l'oreille, le son n'est pas génial, mais vous allez voir, parce que ce qu'il dit est quand même assez incroyable.
Cette jouissance de l'autre, c'est là que se produit ce qui montre qu'autant la jouissance phallique est hors corps, autant la jouissance de l'autre est hors langage, hors symbolique. Car c'est à partir de là, à savoir à partir du moment où l'on saisit ce qu'il y a, comment dire, de plus vivant ou de plus mort dans le langage, à savoir la lettre, c'est uniquement à partir de là que nous avons accès au réel. Cette jouissance de l'autre, dont chacun sait à quel point c'est impossible, et contrairement même au mythe qu'évoque Freud, qui est à savoir que l'éros, ça serait faire un, mais justement, c'est de ça qu'on crève, c'est qu'en aucun cas, deux corps ne peuvent en faire qu'un. De si près qu'on le sait, mais tout ce qu'on peut faire de mieux, dans ces fameuses étreintes, c'est de dire « serre-moi fort ». Mais on ne serre pas si fort que l'autre finisse par en crever, quand même, n'est-ce pas? De sorte qu'il n'y a aucune espèce de réduction à l'un. C'est la plus formidable blague. S'il y a quelque chose qui fait l'un, c'est quand même bien le sens de l'élément, sens de ce qui relève de la mort.
On ne peut pas dire que Lacan ait vraiment cru à l'amour. D'ailleurs, c'est lui, je crois, qui disait « L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. » Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désamour. Comme ça, on est tranquille.
Oui.
Mais c'est peut-être un peu dommage.
D'une certaine manière, ce que dit plutôt Lacan, c'est que l'amour, ça se passe beaucoup dans le langage. Et que d'une certaine... Et donc, voilà ce qu'on en construit. Et, Et donc, l'idée de Lacan, c'est que finalement, on n'a jamais accès directement à l'autre. La jouissance de l'autre, hors langage, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Et donc, fondamentalement, ce qu'il y a chez Lacan, c'est quand même un grand rire face à l'idée... un rire jaune ou peut-être un grand rire nietzschéen face à l'idée qu'on puisse faire un. Parce que faire un, d'une certaine manière, c'est la mort. Et je pense que ça, c'est très juste. Quand on fait un, ça veut dire qu'il n'y a plus de singularité, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence, ça veut dire qu'il n'y a plus d'événements, ça veut dire que plus rien ne nous arrive. Et donc c'est la mort. Et de la même manière, quand on dit serre-moi fort, bah dans le serre-moi fort, il y a le risque justement de l'annulation de l'autre. Il y a le risque de la mort. Donc finalement, c'est un appel à la vie. Et sur l'idée du désamour, c'est l'idée qui est la mienne, c'est que justement l'expérience du désamour, c'est le retour à la vie, parce que c'est aussi la possibilité, malgré la difficulté de l'expérience, d'un rapport à soi, d'un retour à soi, de la possibilité de sentir sa propre vie. De ressentir sa propre vie, d'éprouver sa propre vie. Et bien sûr, dans éprouver, il y a épreuve. C'est-à-dire que si j'éprouve ma vie, et si j'ai la possibilité, par le fait même d'une forme de séparation, d'une forme de détachement, d'éprouver ma vie, eh bien, il y a la dimension de l'épreuve de vie.
Pourquoi, Fabienne Brugère, aussi peu de philosophes se sont penchés vraiment sur le désamour ? Y en a assez peu, c'est moins glorieux peut-être que l'amour, j'en sais rien. Et même par exemple, alors il n'était pas philosophe, il était poète, mais quelqu'un comme Ovid, on parle toujours de son... D'ailleurs, ça a été édité plein de fois, L'art d'aimer, mais il a aussi écrit L'art de désaimer. Et ça, on ne le sait pas.
Bah parce que déjà, la philosophie, c'est quand même toujours une machine à idéaliser le monde. Alors moi, j'ai toujours travaillé en philosophie sur la possibilité de désidéaliser le monde. Donc forcément, le désamour, ça m'a intéressée aussi à ce titre. Mais les philosophes ont toujours du mal avec les expériences négatives. Et je pense qu'ils ont beaucoup plus de mal avec celle-là spécifiquement, parce que l'amour, on l'a associé à la naissance de la philosophie. L'amour de la sagesse. Dès Platon, dans Le Banquet, il y a une définition de l'amour comme le fait de rechercher sa moitié. Donc dès Platon, on a quand même vraiment un grand hymne à l'amour. Donc la philosophie, c'est quand même défini à travers l'hymne à l'amour. Donc non seulement c'est en général une machine à idéaliser la philosophie, parce que le concept, il produit toujours de l'élévation. Donc, et forcément, quand il s'agit de l'amour, comme on l'a lié à la philosophie, ben là, on est vraiment sur le mythe qu'on ne peut pas toucher. Et par ailleurs, après, dans les lectures que l'on peut faire, c'est vrai que c'est assez étonnant qu'Ovide, on ait autant oublié ses remèdes à l'amour, parce que forcément, c'est toujours un repoussoir. On aimerait bien que ça n'arrive pas, on aimerait bien être dans le déni. On préfère parfois rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus, parce que tout simplement, on ne veut pas pouvoir nommer cette expérience du désamour. On veut faire comme si elle n'existait pas.
Vous écrivez, Fabienne Brugère, et si désaimer, c'était changer d'amour, et même changer l'amour. C'est-à-dire, on inaugure à ce moment-là autre chose.
Ben, c'est-à-dire que si on dit que désaimer, c'est un chemin, c'est un processus, c'est un passage, forcément, on ne va plus concevoir l'amour de la même manière. Et on va se constituer comme une sorte, j'ai envie de dire, d'héritage de l'amour.
C'est-à-dire que c'est grâce à cet héritage, d'ailleurs, qu'on va pouvoir aimer à
nouveau. Voilà, c'est grâce à cet héritage, on va pouvoir aimer à nouveau, et forcément, on va aimer différemment. parce que c'est pas une, ce sera pas une restauration. Le fait,
une révolution.
Ça sera une révolution. Et j'ai poussé les choses un petit peu plus loin parce que je me suis dit que il y avait peut-être dans la possibilité d'un nouvel amour, un devenir révolutionnaire de l'amour ou un devenir aussi minoritaire de l'amour. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'on va sortir des stéréotypes amoureux, en particulier hétérosexuels, et qu'on va peut-être inventer d'autres relations amoureuses, on va peut-être considérer autrement l'hétérosexualité, l'homosexualité.
Donc ça change en quelque sorte les positions de genre, c'est ce que vous...
Ah, je pense que ça peut changer les positions de genre, parce que du côté des femmes, bon, c'est toujours difficile de généraliser, mais on peut imaginer que du côté des femmes, ça permet quand même d'appréhender davantage le rapport à soi, parce que les femmes sont quand même très souvent, à travers l'histoire, déportées du côté d'un prendre soin des autres. Hein. J'ai pour ma part beaucoup travaillé là-dessus, donc ce sont quand même elles qui ont souvent pris en charge les conjoints, la famille, tout ce qui fait l'amour des autres. Il y a de très beaux textes de Bell Hooks là-dessus. Et puis, elles ont du mal souvent à s'aimer elles-mêmes, elles ont du mal à s'affirmer. Enfin, ça, c'est l'histoire des femmes. Et donc, je pense que le désamour, ça vaut aussi, ça peut valoir pour elles comme une affirmation de soi. Et de la même manière pour les hommes, ça vaut aussi comme une remise en cause de ce qui peut faire aussi la domination masculine. C'est une fragilisation dans tous les cas. Je pense que la fragilisation, la vulnérabilité, c'est des choses qui créent en nous une histoire, un héritage, la possibilité de vivre autrement. Et cela, à une époque où quand même, on est dans un néolibéralisme toujours qui nous apprend à être entrepreneur, performant, avoir des pannes. Parce que finalement, c'est aussi un moment parfois de panne. C'est apprendre à mieux exister, c'est apprendre à éprouver son existence. Donc, moi, j'aurais presque envie de dire, redevenons existentialistes d'une certaine manière.
Albert Cohen, c'est une archivina de 1968.
L'amour vrai. Et cet amour vrai, ce n'est pas un amour uniquement axé sur la chair. L'amour vrai, c'est en fin de compte l'amour nuptial, c'est-à-dire deux êtres qui ne sont pas uniquement réunis par les délices si vite épuisées de l'union physique, mais par un but commun, que ce but commun soit l'enfant ou qu'il soit une œuvre à accomplir, aussi modeste, aussi humble puisse-t-elle être. Bref, pour moi, l'amour est celui de deux êtres qui se réjouissent de vieillir ensemble, entre autres.
Albert Cohen, auteur de Belle du Seigneur, dont il disait que c'était un toboggan de la passion, cet amour chimiquement pur, hein, d'Ariane et de Solal, forcément voué à l'échec. D'ailleurs, lui-même disait « l'amour-passion m'intéresse et j'en dis du mal, en fin de compte ». Donc là, on se dit que le désamour talonne l'amour-passion.
C'est-à-dire que effectivement, ce que dit Cohen, c'est l'amour-passion, ça mène au désamour, parce que l'amour-passion, il ne peut nécessairement qu'avoir une fin abrupte. Il est en quelque sorte pas suffisamment réfléchi. On pourrait le dire de cette manière-là. Et ce que défend à ce moment-là Cohen, c'est la perspective de ce qu'il appelle un amour vrai, c'est-à-dire quelque part un amour réfléchi, un amour construit, la possibilité d'un chemin ensemble. Et donc effectivement, ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est la manière dont la question de l'amour, mais aussi la question du désamour, et ça c'est une tâche proprement philosophique, la manière dont on doit l'appréhender en termes de vérité, de deux façons, c'est-à-dire y a-t-il un amour vrai, mais le désamour lui-même n'est-il pas le moment de vérité de l'amour, parce que le moment où on fait l'expérience du désamour, c'est un courage de la vérité, quelque part. C'est le fait d'expérimenter réellement ses sentiments, réellement ce qui est en train de se passer. Donc, il y a toute cette question de, voilà, du courage de la vérité. Et cela, ça donne aussi, je dirais, un sens éthique au désamour. Face à ce qui nous arrive, face à ce qui peut nous faire mal et nous fait du mal, comment on renoue avec un chemin d'existence dans une épreuve qui est aussi un courage de la vérité.
Il y a, écrivez-vous, Fabienne Brugère, des signes précurseurs au désamour. L'ennui, le silence, mais vous parlez de silence sans grâce, et le début de la désillusion, et l'absence d'intimité révélée.
Ben forcément, l'amour, c'est ce qui fait tenir, un antre. L'amour, c'est un antre qui se constitue entre deux personnes. Cet antre, on peut le nommer intimité. C'est quelque chose qui appartient là à deux personnes et uniquement à deux personnes, ou peut-être à plus si on n'est pas dans ce registre-là. Mais en tout cas, ça fait tenir une intimité. Bien évidemment, désaimer, C'est faire le deuil d'une intimité.
Mmh. On ne vous demandera pas si l'amour est voyou. Mauvais jeu de mots.
Il y a des jours où tout m'irrite, où je ne veux plus parler, où les gens vont bien trop vite pour atteindre mes idées. J'ai les humeurs en panique, des envies de tout casser. Pas la peine de me dicter comment faire et quoi penser. Loin du sol, là-haut, dans une montagne, à faire des vagues, loin de vos marées. Comme l'eau toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour le renvoi, ça bouillonne. J'ai les humeurs changeantes, la gorge en pente et les jambes en coton. Ma répartie m'abandonne, perdu les phrases qui pardonnent. Mais je ne vous en veux pas, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi.
Y a des jours où tout m'inquiète, quand j'entends le genre d'idée qu'on enfonce dans la tête des gens mal illuminés. Y'a des choses qu'on accepte, tant qu'elles sont pas sous le nez. Ça me fait des maux de tête, et des envies d'exploser. Qu'on m'isole, loin du sol, là-haut, dans une montagne. Je ferai mes vagues, loin de leur marée. Comme l'eau, toujours mouvante d'un ruisseau qui court et court et qui, en faisant, fait bouger ses pierres au sol. Laissez-moi seul ce soir, rien qu'un instant, et je prendrai le temps de compter mes défauts. Pour le renvoi, ça bouillonne, j'ai la soupape qui déconne, j'ai les humeurs changeantes, la gorge en pente et les jambes en coton. Ma répartie m'abandonne, perdu les phrases qui pardonnent, mais je ne vous en veux pas, j'ai compris ce qui n'allait pas chez moi.
C'était donc Voyou. Fabienne Brugère, est-ce que le détachement, selon vous, comment est-ce qu'il se produit? Comment est-ce qu'il, on parlait de processus tout à l'heure, il se fait malgré soi? C'est pas une question de volonté, le détachement, surtout si le désamour vient, enfin, il est rarement concomitant, il arrive peut-être de l'autre. Il arrive peut-être un moment où on n'en a pas envie du tout.
Oui, bien sûr, le désamour, ça peut commencer de manière très subie, par une disparition, par une rupture, par quelque chose qui s'achève. Donc le détachement, bah oui, c'est pas une affaire, c'est une affaire, on est dans des concepts qui sont ceux de Ricoeur, le volontaire et l'involontaire.
Il existe toujours du volontaire et de l'involontaire. Ricoeur appelle ça les limites naturelles de tout individu.
Ben, bien sûr. Donc, dans le détachement, il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui résiste parce qu'on revient toujours à l'attachement initial, aux attachements initiaux, à ce qui nous a fait. On s'est construit dans des attachements.
Mais ça peut aussi être tragique parce que vous racontez, par exemple, chez Racine, au fond, les personnages ne se détachent jamais. Et ça finit mal.
Ah ben oui, c'est pour ça qu'il faut faire l'expérience du désamour. Mmh. Et c'est pour ça que malgré tout, dans l'expérience du désamour, ben, y a une forme de courage de la vérité, c'est-à-dire qu'il y a une forme de construction du détachement, même si bien évidemment on est sur ce qui résiste. Et vous avez tout à fait raison, ce que nous montrent par exemple des personnages comme Andromaque, des personnages comme Antigone, c'est justement le tragique de l'attachement qui persiste, quoi qu'il en soit, de la vie ou de la mort de celles et de ceux à qui on est attaché. Et cette question du détachement, c'est la question même de la vie, c'est la question des âges de la vie. C'est appréhendé très bien par Bowlby au sujet des bébés eux-mêmes. Mmh. Quand on les détache, qu'est-ce qui se passe? Donc devenir soi-même, c'est toujours un peu apprendre à se détacher malgré tous nos attachements.
On finit avec Vladimir Yankelevitch. C'est une archive du 30 décembre 1971.
Oui, il est plus vrai que la vérité. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais enfin, ça me paraît très juste, en effet, de dire que l'amour est d'abord plus important que la sincérité, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une sincérité sans l'amour? Ça ne vaut rien. Mieux vaut être un hypocrite, alors. Donc, c'est l'amour qui valorise toutes les vertus, sans lesquelles ces vertus elles-mêmes ne seraient que cymbales retentissantes, comme dit l'apôtre. Donc, ce qu'il faut, justement, c'est l'amour qui les vivifie, sans lesquelles elles ne sont rien. Donc, l'amour n'est pas étranger à la vérité, mais je dirais même qu'il est une survérité. Il est fondateur de la vérité, il est survrai, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est pourquoi la sincérité en elle-même ne vaut rien, et ceux qui la prêchent indépendamment de l'amour, comme Kant, qui est un théoricien du désintéressement, mais qui s'évertue à ne pas prononcer le mot d'amour, ou saint Augustin, n'est-ce pas, avec qui il est entièrement d'accord, qu'est-ce que c'est que cette sincérité-là? C'est comme d'être sincère avec la Gestapo, par exemple. Si je cache un résistant dans une armoire, et qu'on me dit « il est là », et qu'on me dit « est-ce qu'il est là ?», et si je dis « oui, il est là parce que c'est vrai », qu'est-ce que je suis? Je suis un gredin, n'est-ce pas? Donc mon devoir le plus sacré est de mentir. Donc le mensonge, à ce point de vue, est plus précieux que la vérité, plus précieux que la sincérité. Et donc il est plus important, c'est une vérité plus profonde, plus générale, qui va plus loin. Et dire une vérité ponctuelle parce que c'est la vérité, comme les gens qui vous disent une vérité brutalement, oui, eh bien c'est mentir. Et je pense qu'avec certaines personnes, le mensonge est un devoir.
Un petit commentaire, Fabienne Brugère.
Ah, la question du mensonge. Forcément, quand on pense à l'agencement infidélité-mensonge et à l'engrenage de la séparation de beaucoup de couples, mais forcément, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Je dirais que Yankelevitch, il pose l'amour comme on le pose toujours dans la philosophie, c'est-à-dire comme un monstre sacré. Et il pose l'insincérité comme étant quelque chose de petit. Mais moi, je déplacerai un peu les choses. Je dirais que quand on aime quelqu'un, il y a une forme, je sais pas, de jeu dans le contrat. Et le problème, c'est quand quelqu'un rompt le jeu sans le dire à l'autre. Et ça, ça crée malheureusement, c'est une forme de non-respect de l'autre, c'est une forme d'effacement de l'autre. Donc je déplacerai un peu ce que dit Yankelevitch, parce que par ailleurs, il semble nous dire presque que l'amour, c'est une vertu. Moi, j'aurais plutôt envie de dire le désamour, c'est une vertu. Parce que c'est un chemin d'existence qui fait considérer l'amour autrement que comme un idéal. N'idéalisons pas trop l'amour.
Et vous iriez jusqu'à dire vive le désamour?
J'irai jusqu'à
vous avez
dire
10 secondes, hein.
Vive le souci de soi, en fait.
Ouais. Très bien. Mais écoutez, c'est un livre vivifiant et très profond. Merci beaucoup Fabienne Brugère, Désaimer, manuel d'un retour à la vie, est publié chez Flammarion. Merci d'avoir été notre invitée ce soir.
Merci beaucoup Patricia Martin.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2, alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre Odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe!
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.